Merci Olivier pour cette introduction et l'invitation encore à Paris. Je me réjouis beaucoup d'être ici. Je suis heureux que presque tout Paris est venu pour m'écouter. Non, à vendredi à 17h, personne n'attendrait un colloque en Allemagne. Pour nous Allemands, c'est un temps extrêmement anti-académique. Alors, je suis vraiment surpris combien de gens sont venus ici. Merci. Alors, dans les systèmes politiques du monde de l'Ouest, les cours se sont développés comme organes puissants. Elles ne décident plus des litiges, mais elles ont gagné une influence significative sur la vie politique et sur les institutions politiques généralement. On pourrait donner plusieurs exemples afin de démontrer cet accroît de puissance. Pensons seulement à la Cour suprême des États-Unis. Cependant, si nous nous contenions aux cours européens, la situation devient plus complexe parce que dans le cadre européen, plusieurs cours émergent et leurs relations ne sont pas aussi claires que l'on pourrait penser. Bien sûr, il faut d'abord citer la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Qu'est-ce que serait le droit commun sans sa jurisprudence? En plus, la Cour européenne de droits de l'homme, datant déjà de 1950, la Cour de Strasbourg a réussi à établir un cadre matériel pour interpréter les droits de l'homme en Europe. Sa jurisprudence s'est développée comme un modèle substantiel, largement suivi dans beaucoup de pays, en tant que tel fabriquant le noyau des libertés publiques en Europe, s'étendant aussi aux pays autour de l'Union européenne et à ceux pays qui ne connaissent pas de recours de droits fondamentaux dans leur propre juridiction. Particulièrement après 1979, cette Cour est devenue un agent majeur sur la scène jurisprudentielle dans le monde. Finalement, bien sûr, on doit mentionner les cours constitutionnelles nationales, ayant aussi la juridiction des recours constitutionnels, une juridiction qui dépend naturellement des spécificités des constitutions particulières. Comme premier exemple, je cite bien sûr la Cour de Karlsruhe ici, qui est depuis ses débuts devenue peut-être le meilleur exemple pour affirmer l'accroissement de l'influence matérielle et de la puissance quasi-politique qu'une Cour pouvait déclencher. Dans le monde du droit d'aujourd'hui, alors, on doit fixer son regard sur un système jurisprudentiel où diverses cours se confrontent sans que nous soyons capables de présenter leurs relations d'une manière claire. En ce qui concerne le rapport entre les cours européennes, au moins ceux qui ont une compétence pour le recours des droits fondamentaux, jusqu'au moment, il n'y a pas un système de compétences ferme entre les cours. Qui parmi elles a le dernier mot? Quel droit fournit le noyau substantiel que les cours sont obligés de respecter et de suivre en même temps? Et est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les cours comme il y a une hiérarchie des normes? À quel droit revient le privilège d'être au sommet de la pyramide? Qui prime sur qui? Or, à cette hiérarchie correspond-il aussi une hiérarchie des cours et donc des juges? Peut-être de poser le problème comme ça réveille une perception du problème franchement allemande, car en Allemagne, nous nous inquiétons, au moins la Cour de Karlsruhe s'inquiète, des abus des juridictions européennes contre celle de Karlsruhe. Le Bundesverfassungsgericht craint que sa compétence de recours des droits fondamentaux soit diminuée ou mise en danger si les cours de Luxembourg et de Strasbourg établissent une jurisprudence substantielle des droits fondamentaux. Depuis une trentaine d'ans, le tribunal de Karlsruhe est alerté du danger de perdre l'influence et de dominance, surtout sur le champ des droits fondamentaux. On doit bien prendre en compte que, pour Karlsruhe, le développement d'une concurrence en matière de droits fondamentaux crée une vraie menace, et non seulement justement un problème particulier en tranchant des cas d'espèce. Selon la perception commune partagée dans le système politique allemand, le tribunal de Karlsruhe ne décide pas uniquement des cas. Il donne à la Constitution un dernier ressort, son sens concret, et cela avec un effet obligatoire qui est accepté de manière générale et abstraite, aussi bien par les auteurs, aussi bien par les autres organes constitutionnels que par le monde politique et social. Donc, c'est le statut de Karlsruhe, le noyau de sa puissance établie sur une jurisprudence des valeurs fondées sur les droits fondamentaux, qui est menacé par des décisions venant de Strasbourg ou de Luxembourg. En France, peut-être, on ne s'occupe pas tant de ces rapports entre les cours parce qu'il n'y a pas une rivalité comparable entre les cours. Les arrêts du Conseil constitutionnel ne plongent presque jamais dans un conflit avec les autres juridictions. La compétence du Conseil s'attache plutôt aux questions de constitutionnalité ex ante. Et les droits fondamentaux n'y contribuent pas trop. Mais même si le problème n'est pas aussi grave en France, il reste la question comment penser les relations entre les cours différentes en Europe. Alors, en principe, il y a trois acteurs, des cours constitutionnelles nationales, la Cour de justice de l'UE et la Cour européenne des droits de l'homme. Tous les trois ont fondé ou sont en train de fondre leur puissance sur une conception des droits fondamentaux. Quelques-uns parlent d'une concurrence de normativité. Lors, on doit se demander comment les relations entre les cours devraient être conçues en termes d'une hiérarchie. Or, en utilisant une conception d'un dernier mot, ou plutôt dans un cadre interprétatif, des différents arrêts tenant en compte les espèces des cas, existe-t-il un nouveau pluralisme dans la jurisprudence des droits fondamentaux? Quel degré d'harmonie est désirable dans le droit européen? Or, de quel degré en profiterons-nous déjà? Jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle allemande a réussi à délimiter la jurisprudence des trois juridictions, même s'il y avait des cas répétés qui pointaient à des conflits fondamentaux. En ce qui concerne la Cour de justice, le Bundesverfassungsgericht a essayé différentes solutions au cours des décennies. D'abord, il a commencé par un examen de l'efficacité des droits fondamentaux, ce que l'on appelle la Solange jurisprudence. Il a puis opté pour une démarcation étatiste, c'est la règle Maastricht, et enfin bordé les juridictions avec le principe de la démocratie, arrêt de Lisbonne. Je pars de l'hypothèse que les limites de compétences échoueront à l'avenir parce que le droit supranational est transversal à la hiérarchie de la constitution de l'État. L'approche substantielle de la Cour constitutionnelle allemande ne peut pas se distinguer de l'approche fonctionnelle, soutenue par la Cour de justice. Par rapport à la CE2H, les limites ne sont pas clairement établies. Comme droit international, la Convention ne s'applique qu'avec un rang de droit ordinaire dans le droit national, mais doivent être prises en compte dans l'interprétation et l'application du droit national. Il a surgi des chevauchements et des concours de compétences de fond. Cette situation est compliquée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne depuis 2017. La Cour de justice à Luxembourg, depuis 2010, est en train de s'établir sur les droits fondamentaux de la Charte en tant que Cour constitutionnelle européenne complète. Elle élargit l'application de la Charte sur des cas où son application est douteuse concernant la relation du droit de l'Union européenne. Les décisions de la Cour de Strasbourg, à leur tour, se lient seulement inter partes, article 46 de la Convention, et ne sont pas facilement détachées des faits et des contextes réglementaires nationaux. En bref, une hiérarchie du dernier mot ne peut donc pas être identifiée entre les tribunaux. En d'autres termes, la CEDH établit et pousse des standards minimes et ponctuels dans les juridictions des États de la Convention. Sa fonction diffère par rapport à quelques des États de la Convention. Elle a la fonction d'un coopérant en ce qui concerne le niveau des droits de l'homme. Par rapport à d'autres États membres de la Convention, la Cour remplace le recours des droits fondamentaux. Donc, sur le champ du droit international, la Cour de Strasbourg pourrait avoir le dernier mot, mais cela ne se lit que par rapport à l'affaire. La Cour de Luxembourg, quant à elle, pourrait agrandir l'effet de la charte plus loin, mais elle est toujours soumise à la compétence de raisonnement sur le champ d'application du droit de l'Union européenne et doit également se conformer à la Cour de Strasbourg qui élargira comme un problème si l'UE sera rejoint à la Convention. Trop constamment, la Cour de justice ne sera jamais au fond de ce droit. Elle n'a pas le dernier mot dans les questions relatives aux droits fondamentaux. En ce qui concerne l'avenir de la Cour de Karlsruhe, les choses sont compliquées. Elle est en train de perdre dans cette situation, mais reste dans la position préférée pour maintenir au niveau national la primauté de la Constitution, même si le champ d'autonomie diminue. Que devrions-nous faire dans un temps dans lequel différents cours sont en train de lutter pour le privilège de l'interprétation et seront également dépendantes l'une des autres? La réponse classique serait de chercher une solution dans le conflit des lois, comme nous sommes habitués dans la hiérarchie du droit constitutionnel national. Cependant, cette approche échouera parce que cela ne peut pas hiérarchiser le droit constitutionnel avec le droit de l'Union européenne et les droits de la Convention. Leurs rapports ne sont pas pyramidales, mais configurés. Une autre solution est basée sur l'idée de l'harmonisation du droit substantiel, espérant ainsi la résolution de fond des situations de conflit. Cela semble être la façon dont beaucoup de gens veulent marcher quand ils parlent d'une confédération ou d'une union de cours constitutionnelles. C'est l'idée du Verfassungsgerichtsverbund, une notion de la Cour de Karlsruhe et de la littérature allemande, une confédération des cours constitutionnelles. La charte elle-même semble suggérer cette voie lorsqu'elle se réfère aux traditions constitutionnelles communes des États membres, article 52, paragraphe 3, et témoigne du respect vis-à-vis des pratiques nationales. Cette idée, la référence et le respect pour éviter les conflits de droit matériel par renvoi mutuel, bien sûr, est liée à l'émergence de la charte. Mais de nombreux États membres avaient exprimé la préoccupation à propos de violations de la CGCE dans leur propre système juridique. Ils ne voulaient non plus mettre en danger l'harmonie nationale et la protection des droits fondamentaux avec celle de la Convention européenne. À cet égard, devait être suivie à l'acceptation de la charte une stratégie politique qui ne promettait pas de surprise de fond, mais la stratégie d'harmonisation affronte d'importants obstacles. Et j'en cite brièvement cinq aspects. Premièrement, les textes des déclarations des droits fondamentaux diffèrent beaucoup. La Convention, étant la plus vieille, doit être donc interprétée dans une manière plus lâche, tandis que la Charte doit être interprétée dans une matière plus stricte, parce qu'elle est la plus nouvelle. Alors, l'interprétation des textes dépend de leur âge et le besoin de le moderniser. Deuxième point, les limitations des droits dans ce texte se diffèrent aussi. Il y a une clause générale dans la charte, tandis que dans la convention, il y a des limitations très précises dans les droits. Troisième point, il y a une divergence des destinataires. La convention lie les États membres de la convention, mais les constitutions nationales et la charte lient les pouvoirs, les trois pouvoirs. Quatrième point, il y a une divergence de l'organisation interne des droits, des cours, pardon. La Cour de Strasbourg a 47 juges. Et il décide d'une composition qui est renouvelée tous les 3 ans. Alors, il y a un grand changement dans la coordination des chambres de la Cour de Strasbourg. Ce n'est pas la même Cour qui décide, ce sont plusieurs cours, on pourrait dire. À Luxembourg, il y a encore 28 juges. Là, le problème est moins grave, mais aussi semblable. À Karlsruhe, il n'y a que 8 juges qui décident. Vous savez, ce sont 2 sénats à 8 juges, alors ensemble, il y en a 16, mais ce sont toujours les 8 qui décident. Alors, il y a une plus grande stabilité dans l'organisation à Karlsruhe qu'à Luxembourg, qu'à Strasbourg. Et ça, bien sûr, a un effet sur la stabilité et l'homogénéité de la jurisprudence. Cinquième point, il y a une divergence des fonctions. Strasbourg poursuit des objectifs de protection de droits subjectifs. C'est une cour des droits de l'homme. Alors, il y a un cas d'espèce, une violation concrète. Pour la Cour de Luxembourg, cependant, les droits subjectifs ne sont enfin qu'un véhicule procédural pour l'application de la loi objective et pour assurer l'application du droit communautaire. Le tribunal de Luxembourg décide plutôt des questions d'interprétation dans laquelle la dimension de fait de l'affaire est faible. Et le point de droit est primordial. La Cour de Karlsruhe a servi dès le début à la fois des buts et subjectifs et objectifs et a pénétré constitutionnellement le système juridique à l'aide des droits fondamentaux, des valeurs, des obligations de protection des droits fondamentaux, des droits fondamentaux objectifs, etc. On pourrait aussi dire ceci. La Cour allemande utilisa les droits fondamentaux fonctionnellement pour faire respecter la Constitution objective. La Cour de justice de l'UE a utilisé la même stratégie par rapport à son champ de droit, le droit de l'Union européenne, et encore une fois se révèle un bon élève de Karlsruhe. En somme, n'attendons pas une harmonisation substantielle de la protection des droits fondamentaux parce que les bases des textes, mais surtout la position, la fonction et la composition des tribunaux sont trop différents. Nous allons donc devoir vivre avec les conflits juridiques et devrons nous habituer à l'idée des conflits de compétences. Surtout dans le domaine de la jurisprudence des droits fondamentaux, nous sommes confrontés à une nouvelle phase dans laquelle trois tribunaux se disputent le privilège de l'interprétation et dépendront de l'autre. La Cour de Strasbourg, qui décide sur la base de la Convention, alors étant un tribunal international, la Cour de Luxembourg, qui décide sur la base de l'ADO, sur la base du droit de l'Union, en particulier la Charte, alors étant une juridiction supranationale, et les cours constitutionnelles nationales qui décident sur la base de leur constitution. Les normes juridiques de base de ces trois tribunaux diffèrent, ainsi que leur situation juridique et l'effet contraignant de ces décisions. Entre les tribunaux, une hiérarchie claire du dernier mot ne peut donc pas identifier parce que le texte juridique de base et leur validité ne peut être mis dans un rang hiérarchique. Il se produira plutôt une division du travail, un processus cognitif, un chevauchement des interprétations substantielles des droits fondamentaux ou une divergence et la tâche de les mettre en concordance pratique. Je préfère une approche contextuelle ou fonctionnelle qui comprend le pluralisme judiciaire comme un avantage à une répartition des compétences. À l'heure actuelle, la pratique des tribunaux est marquée ici par le hasard. Elle n'est pas stricte et mène à des conflits remarquables entre les cours. Et je voudrais illustrer ces conflits par deux exemples que je prends de la pratique judiciaire allemande. Le premier exemple concerne les rapports entre le droit de l'Union européenne et le droit national. Le cas que je voudrais discuter est l'arrêt de la Cour de justice bien connue, Ackerberg-Franzson, du 26 février 2013. Dans cet arrêt, la Cour de justice étendait le champ d'application de la Charte considérablement. Selon l'article 51 de la Charte, les dispositions de celle-ci ne s'adressent aux États membres que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dans cet arrêt, la Cour de justice admet des liens assez faibles pour construire une relation des faits d'espèce au droit de l'Union. L'effet de son interprétation vaste du champ d'application de la Charte était clair. La Cour de justice voulait étendre son application, en même temps sanctuariser ses compétences, et surtout, elle ne voulait pas refuser un des premiers recours d'un tribunal national concernant une violation de la Charte. On s'imaginerait l'effet d'un refoulement du recours. Cela aurait désenchanté tous ceux qui espèrent de la Charte une amélioration du niveau de protection des droits fondamentaux, et cela était le but primaire de la politique lorsqu'on avait établi la charte. Néanmoins, la Cour de Luxembourg était fortement critiquée par son approche de l'article 51. L'avocat général Cruz Villalon avait plaidé contrairement. La plupart de la littérature s'opposait à l'arrêt. La Cour de Karlsruhe se trouvait particulièrement en alerte, craignant la perte significative de sa compétence pour les droits fondamentaux. Seulement 2 mois plus tard, la Cour de Karlsruhe, dans un arrêt n'ayant aucune relation factuelle avec la décision Ackerberg, avertissait son voisin à Luxembourg et l'invitait à réinterpréter sa décision dans une telle manière afin d'éviter un acte ultra vires. Si Karlsruhe se plaignait, presque chacune relation factuelle suffit pour déclencher abstraitement l'application du droit de l'Union, ça empêcherait la cohabitation entre les deux cours. Quelle réaction intense et rapide à Karlsruhe. L'idée, donc, c'est d'interpréter les arrêts dans le cadre des cours européens de manière à éviter des conflits entre les différents cours. Mais comment y réussir? On a besoin d'une technique pour expliquer le contenu des décisions juridiques. Je vous offre 3 interprétations de l'arrêt Ackerberg-Franson avec lesquelles on peut éviter les conflits. Premier point, le cas provenait de la Suède. On sait bien que la Cour de justice de l'UE va interpréter le droit communautaire en vue de son utilisation précise dans un contexte spécifique du droit national. Un contexte dans lequel le droit communautaire est appelé à opérer, à être efficace. Pour cela, le président de la Cour de justice, Kühn Lennertz, l'a récemment réitéré, la Cour doit étudier le droit national à un point, comme il disait, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, le fait que le cas d'Ackerberg provenait de la Suède, est-ce qu'il importe à l'application de la charte selon l'article 51? Je crois que oui, parce que la Suède n'a pas de juridiction constitutionnelle et donc, à Ackerberg, il n'y avait pas de recours national dans son cas. La situation ici est incomparable avec l'Allemagne où il y aurait le recours constitutionnel à Karlsruhe. Lorsqu'il n'y a pas de recours constitutionnel en Suède, la charte européenne peut agir comme un substitut. Il me semble censé d'étendre l'application de la charte lorsqu'il y a une lacune concernant la sauvegarde des droits fondamentaux dans le propre système constitutionnel de l'État membre. On peut donc justifier l'arrêt Ackerberg-Franson en ce terme, comme substitut d'une protection des droits fondamentaux où le système juridique national n'en pourvoit pas. Mais ça veut dire aussi que l'interprétation de l'article 51 selon l'arrêt Ackerberg n'est pas applicable au droit allemand. Deuxième mode d'interprétation de cet arrêt. Le cas concernait une question de non bis in idem. Il était reproché à M. Ackerberg d'avoir échappé au paiement de la TVA. Pour cette raison, il avait fait l'objet des sanctions administratives et, en outre, pénales. M. Ackerberg donc affirmait une violation du principe non bis in idem, explicitement interdit dans l'article 50 de la charte. Encore une fois, le droit suédois ne connaît pas de protection ici. On pourrait expliquer l'arrêt comme un cas du contexte non bis in idem. Et encore une fois, dans cette interprétation, l'arrêt ne réagirait sur le droit allemand parce que la constitution allemande contient une défense de ne bis in idem soi-même. Donc cette question juridique n'a pas besoin d'un recours alternatif en droit européen. À nouveau, on peut justifier la décision de Luxembourg et en même temps éviter les conflits. Troisième mode d'interprétation, finalement, on pourrait contextualiser l'arrêt considérant les faits d'espèce. Alors, on expliquerait le ratio decidendi plutôt en rendant compte du contexte du cas d'espèce, un peu comme il est fait dans le raisonnement de la common law. Cependant, dans la tradition continentale de l'interprétation, on incline à négliger l'importance des faits pour le résultat. Trop souvent, des arrêts sont expliqués sans payer aucune tribute aux circonstances factuelles de la question jugée. Généralement, cette approche, plutôt normative, contribue à étendre le jugement au-delà des circonstances qui devaient être décidées. Négliger les faits du cas d'espèce ou son contexte dans le processus de l'interprétation d'un arrêt va surévaluer le jugement et va agrandir la puissance d'une cour plus qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui passerait avec Ackerberg si l'on interpréterait l'arrêt considérant le contexte? La matière originaire du cas, c'est le droit de taxe suédois. Mais suffit le droit de taxe pour démontrer un lien assez substantif avec le droit de l'Union? Ici, on doute, comme beaucoup de commentaires l'ont fait. L'article 51 demande l'application de la charte lorsqu'un État membre met en œuvre le droit de l'Union. Sans autre lien, surtout le droit de taxe n'a pas de connexité avec le droit de l'Union et donc l'arrêt Ackerberg serait injustifiable lorsque l'on l'interprète contextuellement. C'est sur ce point-ci que la décision est critiquée plus souvent. On peut l'interpréter dans telle manière, mais finalement, on doit constater l'arrêt Ackerberg ne serait pas applicable au droit allemand. Alors, la Cour de Karlsruhe ne devrait pas s'inquiéter. Mais nous savons que l'arrêt ne serait pas expliqué d'une manière que je vous ai présentée. Cependant, on incline à ignorer les faits d'espèce et le contexte national en interprétant des arrêts européens. Et c'est exactement ce qui crée les tensions entre les juridictions européennes. On doit changer l'interprétation, donc. Deuxième exemple. Je veux présenter un autre exemple concernant deux arrêts de la Cour de Strasbourg maintenant. La décision d'Emir et Baykara contre Turquie du novembre 2008, décidée par la Grande Chambre, et la décision Enagi Yapiyol contre Turquie, décidée en 2009. Les arrêts concernant la liberté syndicale et le droit de grève. Dans les années 1990, des fonctionnaires municipaux en Turquie ont fondé des syndicats. Cependant, le droit turc ne conférait pas aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, ni celui de mener des négociations collectives. Dans le premier arrêt, la Cour de Strasbourg a déclaré que l'article 11 de la, 11 de la Convention, la liberté d'association, comprend aussi le droit de syndiquer aux fonctionnaires municipaux. Le deuxième arrêt y ajoutait aussi le droit de faire la grève. La Cour circonscrivait les limitations de la liberté d'association dans l'article 11. Les deux décisions démontrent l'importance la Cour assigne à la liberté d'association et surtout le droit de syndiquer dans les relations de travail et même dans le secteur public. On doit les interpréter aussi comme preuve du renforcement de la société civile en Turquie dans les années 1990, alors il y a 25 ans. Qui refuserait ces arrêts? Maintenant, tournons-nous vers l'Allemagne de l'année 2010. En Allemagne, généralement, un enseignant à l'école est un fonctionnaire public, donc il n'a pas le droit de grève. Mais il y a des syndicats, des enseignants, et il y a aussi un droit, et le droit connaît des coopérations et des conseils des fonctionnaires qui sont en charge de représenter les intérêts des fonctionnaires contre les intérêts de la lande qui les emploie. Alors, les faits de cas turcs n'appliquent pas à l'Allemagne. Ni le droit de syndiquer est refusé par l'Allemagne, ni le droit de négocier. Le but d'une grève dans les circonstances turques ne se pose pas dans le cadre allemand. Or, les arrêts de la Cour de Strasbourg, ici, n'ont pas de force obligatoire à l'Allemagne parce que, selon l'article 46 de la Convention, les membres de la Convention doivent se conformer seulement aux arrêts dans les litiges auxquels elles sont parties. Ce qui se passe en Allemagne maintenant est très intéressant. Un journal juridique du droit de travail, publié par l'éditeur Beck, C.H. Beck à Munich, c'est l'éditeur juridique le plus important en Allemagne, publiait une traduction allemande du deuxième arrêt de Strasbourg. En plus, la rédaction du journal ajoute des dispositifs du jugement comme il est fait par les cours allemandes. Mais la Cour de Strasbourg n'utilise pas des dispositifs similaires. Alors, le journal allemand, dans une manière créative, ajoute à la décision ce qu'elle ne contient pas. Enfin, la rédaction donne à la traduction allemande un titre, un eye-catcher, avoir un droit de grève pour les fonctionnaires publics. Le lecteur allemand, alors, doit gagner une impression fausse du jugement, dont la publication allemande, l'arrêt, est complètement dépourvue de son contexte. Ni les conditions des employés municipaux en Turquie, ni leurs problèmes de négocier sont mentionnés, ni le contexte temporal. On gagne l'impression d'une interprétation stricte et absolue de l'article 11. Le lecteur allemand appréhende la décision si elle était un propos général du droit. La Cour, c'est ce que le lecteur allemand en comprend, n'a pas tranché un litige, mais elle a établi un nouveau droit aux fonctionnaires publics, le droit de grève. Dans ce qui suit, il y a une confusion complète en Allemagne. Divers tribunaux administratifs accordent ce nouveau droit apparent aux requérants. En effet, des enseignants qui ont fait la grève et étaient, comme fonctionnaires publics, sanctionnés. Autres tribunaux en refusaient en disant que la Constitution n'attribue pas le droit de grève aux fonctionnaires publics et que la Constitution surmonte la Convention. Enfin, la Cour fédérale administrative à Leipzig, ne savant pas vraiment quoi faire, décider que le droit allemand ne contient pas un tel droit, mais il faudrait réfléchir de l'introduire. Maintenant, on attend un mot final dans cette affaire de la Cour de Karlsruhe. Elles doivent décider l'affaire 7 ans. Ce qui m'étonne ici est le suivant. Aucune cour allemande ne sait comment elle doit interpréter un arrêt de la cour de Strasbourg. Voilà leur faute. Elle cite l'arrêt dans la traduction de l'éditeur allemand, pas dans une des deux langues officielles. Mais est-ce la traduction allemande correcte? Est-ce un fonctionnaire municipal en Turquie égal à un fonctionnaire public en Allemagne? La langue, donc, pose des problèmes. Puis, les cours ne paient aucune considération au contexte de la décision, ni le contexte temporel, âge de 25 ans, ni le pays, Turquie, contre l'Allemagne, ni la relation du travail sont considérées par les cours allemandes. Enfin, les cours interprètent la décision dans la même manière dans laquelle elles sont habituées d'interpréter les arrêts de la Cour constitutionnelle allemande. On entend ici les décisions de Karlsruhe généralement dans un cadre vaste. On leur accorde une force interprétative large. Les juges allemands sont élevés de se soumettre aux décisions de Karlsruhe. Et maintenant, il transfère cette attitude à la Cour de Strasbourg, qui n'est pas une Cour constitutionnelle, mais conventionnelle. Donc, les juges se trompent de la force obligatoire de l'arrêt. Ils croient que l'arrêt est un effet obligatoire au droit allemand, ce qui n'est pas le cas. Il faut admettre qu'ils sont séduites un peu par une décision de la Cour de Karlsruhe elle-même, l'affaire Görgülü, qui a décidé que les cours allemands sont obligés de tenir compte de la jurisprudence de Strasbourg. Mais on doit préciser, tenir compte est autre chose que l'effet obligatoire, et Görgülü concernait une affaire allemande. Alors l'arrêt strasbourgeois ici exerçait une force obligatoire. La méprise de la décision européenne est donc aggravée par une méprise de la décision de la Cour de Karlsruhe, qui ne demande pas d'étendre les faits de l'interprétation de la Convention au droit allemand, automatiquement. Finalement, une telle interprétation entraînerait un conflit à la hiérarchie des normes dans le droit allemand. La Convention n'est pas suprême de la Constitution, alors un arrêt de Strasbourg ne peut pas déroger la défense d'un droit de grève aux fonctionnaires publics. On verra quelle solution la Cour de Karlsruhe choisira dans ce conflit. En somme, ce qui s'est passé ici, c'est une accumulation de fautes dans l'interprétation d'un arrêt européen. Mais comment le faire mieux? J'ai déjà mentionné les critères décisifs et je voudrais les résumer pour en finir. Il faut contextualiser l'interprétation des arrêts et on doit les contextualiser de trois manières. Premièrement, il faut prendre en compte le cadre institutionnel. Quelle cour a décidé? Une cour constitutionnelle, une cour conventionnelle ou une cour supranationale? L'interprétation n'est pas égale, elle dépend de la position institutionnelle de la cour et de sa juridiction. Deuxièmement, il faut prendre en compte le contexte procédural. Qui est le récurrent, l'équerrant? Est-ce qu'il y a autre pouvoir impliqué? De telle façon se présente la séparation des pouvoirs. Et finalement, il faut prendre en compte le contexte factuel du cas, l'effet d'espèce, c'est-à-dire le temps, la matière, les particularités du conflit. Tout à l'heure, ce que l'on peut utiliser pour distinguer un cas d'un autre pour faire ce que les Anglais appellent « distinguishing ». Par ces moyens, je soutiens, il faudrait réussir d'établir cette coopération des cours européennes dont nous avons parlé au début et en même temps d'éviter les conflits qui tournent autour du problème du dernier mot et la hiérarchisation des cours. Conclusion. Un effet très important de cette approche sera un nouveau dialogue des juges en Europe. En utilisant la contextualisation, les cours européennes peuvent diverger plus facilement. L'effet obligatoire d'un arrêt n'est pas étendu plus qu'il vaut. On aperçoit l'avantage de cette interprétation lorsque l'on pense au cas discuté. L'arrêt à Åkerberg est décidé correctement pour le cadre suédois. Le droit de grève est appliqué concrètement, correctement dans le cadre turc. Ces décisions ne deviennent pas problématiques lorsque l'on peut les distinguer. Le prix de la contextualisation, évidemment, sera un pluralisme substantiel dans la jurisprudence européenne. Mais qui demanderait l'harmonisation totale de la jurisprudence? Contextualiser l'interprétation ne fait que de transposer la marge d'interprétation aux relations entre les cours. L'effet sera aussi que ce dialogue des cours entraînera de nouveaux conflits autour de l'interprétation des droits de l'homme et de l'applicabilité des garanties diverses. On ne doit pas s'imaginer ce dialogue seulement dans une forme courtoise. Il y aura des conflits entre les cours, nous les avons déjà vus. Et il ne faut pas espérer un état juridique totalement paisible. Au contraire, si l'on veut éviter l'hiérarchisation des cours, si l'on veut éviter le pouvoir d'un dernier mot, il faut accepter des relations sous tension. Il ne faut pas nier les conflits parmi les cours, mais les organiser et les structurer. Et cela entraîne un arsenal de contre-interprétations d'une cour vers une autre. Dernier propos. Quand je propose une approche un peu plus conflictuelle, je pense aussi à un autre défi que je ne veux que mentionner brièvement. Comme je disais au début, les cours sont devenues pouvoirs puissants. Elles ont obtenu un rôle imprévu. Qui en penserait il y a 50 ans? Mais ça veut dire aussi que notre conception traditionnelle de la séparation des pouvoirs doit être actualisée. On ne peut pas concevoir un système politique en Europe dont il y a un pouvoir sans un contre-pouvoir. Cela déclencherait des dangers. Mais qui fournit le contre-pouvoir contre les cours constitutionnelles en Europe aujourd'hui? Quand nous acceptons le pouvoir de ces cours, et bien compris, il y a beaucoup de raisons pour l'accepter, il faut établir aussi des contre-pouvoirs. Mon approche d'un dialogue conflictuel des juges utilise les cours comme contre-pouvoirs contre les autres cours. Une cour peut corriger une autre cour sans avoir le dernier mot. L'interprétation contextuelle des arrêts européens, c'est mon espoir, pourrait fournir un système de checks and balances dans le pouvoir judicatif, c'est-à-dire une séparation des cours par des cours, une séparation intrajudiciaire. S'il y a une telle coordination, compétition et contradiction judiciaire, on ne doit plus craindre la puissance des cours et on peut espérer que la jurisprudence des droits fondamentaux sera riche et évolutif. Merci pour votre attention.